Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia avec vous. Heureux de vous retrouver pour vous présenter cette édition de 17h30, temps universel du lundi 3 février 2020. Donc voici les titres. Rencontre entre les présidents rwandais et ougandais pour tenter d'apaiser les tensions entre Kigali et Kampala. Mort en Afrique du Sud du célèbre mercenaire britannique Mike O'Hare à l'âge de 100 ans. Présidentielle américaine, démarrage ce soir des primaires chez les candidats démocrates avec le caucus de l'Iowa. La Chine critique les États-Unis, accusant Washington d'avoir contribué à propager la peur au niveau mondial. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Le parti politique de l'opposant tchadien Ibni Omar Mahamat Saleh, disparu il y a 12 ans, exige que sa dépouille soit restituée par les pouvoirs publics à sa famille et que la lumière soit faite sur sa disparition. Ibni Saleh, ex-ministre de deux présidents, dont l'actuel président Idriss Déby Itno, avait été démis de ses fonctions en 1994 avant de passer dans l'opposition et d'en devenir un des chefs de file. Il avait disparu le 3 février 2008 après une attaque rebelle au cœur de N'Djamena. Une commission intégrant des membres de la société civile et de l'opposition mise en place en 2008 par le Tchad sur demande de la communauté internationale avait conclu qu'Ibni Saleh avait été enlevé à son domicile par des forces de défense et de sécurité tchadiennes, ce que les autorités contestent. Le Rwanda et l'Ouganda ont conclu à Luanda un accord d'échange de prisonniers. Depuis l'été dernier, les deux anciens alliés tentent d'apaiser les tensions à la suite d'accusations mutuelles d'espionnage et d'ingérence. Claire Bonjibour.
Cet accord a été signé par les présidents Paul Kagame et Yoweri Museveni dans la capitale angolaise. Les deux hommes ont convenu de la libération de citoyens de chaque pays, mais aucun détail n'a été donné sur le nombre de prisonniers, la date ou le lieu de l'échange. En présence du président angolais João Lourenço et du président de la RDC Félix Tshisekedi, les deux dirigeants se sont engagés à avancer vers la paix, la stabilité, le bon voisinage et le rétablissement de la confiance mutuelle. Longtemps très proches, les relations entre Kagame et Museveni se sont envenimées suite à des fermetures de frontières, d'accusations d'enlèvement et de meurtres de policiers. Kigali et Kampala ont signé un accord en août 2019 pour améliorer leurs relations, mais peu de progrès ont été accomplis. Les deux présidents doivent se retrouver à nouveau le 21 février pour d'autres pourparlers à un poste de leurs frontières communes.
L'Ouganda étudie la possibilité d'ouvrir une ambassade à Jérusalem, c'est ce qu'a déclaré le président ougandais Yoweri Museveni à l'occasion d'une visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lorsqu'un ami dit qu'il veut votre ambassade à un endroit plutôt qu'à un autre, nous étudions la question. L'Ouganda n'a pour l'heure ouvert aucune ambassade en Israël. M. Netanyahou a de son côté indiqué qu'Israël ouvrirait une ambassade en Ouganda. Le Britannique Mike O'Hare est mort à l'âge de 100 ans en Afrique du Sud. Il était l'un des mercenaires occidentaux les plus célèbres pour son implication dans de nombreux conflits sur le continent. Le point avec Idriss Fall.
Le célèbre aventurier et soldat de fortune est mort dans son sommeil à Durban. Né en 1919 en Inde de parents irlandais, Mike O'Hare a fait ses études en Grande-Bretagne. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il combat comme officier britannique en Birmanie et en Inde. Après la guerre, anticommuniste fervent, il émigre en Afrique du Sud. Dans les années 60, Mike O'Hare s'illustre au Congo belge, l'ancien Zaïre, où il a dirigé une unité pour l'indépendance du Katanga, puis un commando chargé d'écraser une rébellion communiste dans l'est de ce qui s'appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. En 1981, il est le chef des mercenaires qui projetaient un coup d'État aux Seychelles. La tentative échoue, ses hommes détournent un avion d'Air India pour regagner l'Afrique du Sud. Là, Mike O'Hare est arrêté, jugé et condamné à 10 ans de prison pour piraterie aérienne. Il sera libéré 4 ans plus tard. Après avoir vécu près de 20 ans en France, il retourne vivre en Afrique du Sud. Surnommé Mad Mike, Il a survécu à ses anciens compagnons d'armes qui ont contribué à ensanglanter l'Afrique, dont le français Bob Denard. Il était père de 5 enfants.
La police espagnole a annoncé avoir arrêté 26 membres présumés d'une organisation qui a fait entrer clandestinement en Espagne 900 migrants, principalement des Algériens, au tarif de 2 500 € la traversée. Le réseau installé en Algérie et dans 2 provinces espagnoles avait utilisé des embarcations ultra rapides pour traverser en 3 heures la mer d'Alboran depuis Oran, selon la police dans un communiqué. L'organisation faisait aussi passer des migrants par Tanger, dans le nord du Maroc.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine a fermement critiqué ce lundi les États-Unis pour avoir sonné la charge des restrictions visant les ressortissants chinois en raison du coronavirus. Elle accuse Washington de créer et de semer la panique. Pékin indique aussi avoir besoin d'urgence de fournitures médicales pour faire face à l'épidémie. Le point avec Irénée Hermanoumbou.
Le gouvernement américain a été le premier à évacuer le personnel de son consulat à Wuhan et à imposer une interdiction d'entrée sur son territoire aux étrangers venant de Chine, a déclaré Hua Zhonghin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il ne cesse de crier et semer la panique, ce qui constitue un très mauvais exemple, a-t-elle souligné, indiquant que le gouvernement américain n'a pour l'instant fourni aucune aide substantielle à la Chine. Elle a par contre reçu, selon Hua Zhonghin, des fourniture médicale d'une dizaine de pays comme la France, le Japon, la Turquie, le Pakistan, l'Iran, la Russie ou encore le Royaume-Uni. Pékin avait annoncé avoir besoin d'urgence de fournitures comme les masques, lunettes et combinaisons de protection. L'épidémie a déjà contaminé plus de 17 000 personnes et fait plus de 360 morts. Un premier décès hors de Chine a été signalé dimanche aux Philippines. Un Chinois de 44 ans, originaire de la ville de Wuhan, est décédé à Manille et quelques 150 malades sont répertoriés dans 24 autres pays.
Voilà. Donc, et puis l'Iowa, ici aux États-Unis, lance ce soir les primaires démocrates, un processus de plusieurs mois pour investir celui ou celle qui va affronter le président sortant Donald Trump en novembre. L'ombre du président, d'ailleurs, plane sur ses caucus, Eric Manelakiza.
Depuis des mois, les candidats démocrates appellent avant tout à battre le président Trump le 3 novembre. Près de la moitié des électeurs se disaient encore indécis la semaine dernière. La seule question que je me pose, c'est qui va gagner contre Donald Trump, dit une électrice de 67 ans. Le président est d'autant plus présent dans cette primaire qu'il n'hésite pas à commenter, souvent moqueur, l'état de la course entre ses rivaux potentiels. « J'ai des petits surnoms pour chacun d'eux », a ironisé Donald Trump dimanche sur Fox News. Sanders, un communiste, Biden, Joe l'a endormi. Quant à Warren, elle ne sait pas dire la vérité. Monsieur Trump doit faire demain mardi son discours traditionnel sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès américain. Mercredi, le Sénat doit procéder au vote final de son procès en destitution et son acquittement se profile. 3 des candidats démocrates ont été contraints de retourner à Washington ce lundi pour plusieurs heures.
Voilà, merci beaucoup Eric et nous reviendrons donc sur le caucus de l'Iowa en partie magazine avec notre envoyé spécial sur place. L'Organisation de la coopération islamique qui regroupe plus de 50 États musulmans a annoncé ce lundi son rejet du plan du président américain Donald Trump pour résoudre le conflit israélo-palestinien à l'issue d'une réunion extraordinaire en Arabie Saoudite. L'organisme qui représente plus de 1,5 milliard de musulmans dans le monde a également appelé ses membres à ne pas coopérer avec les efforts de l'administration américaine pour faire appliquer le plan. Ce projet prévoit l'annexion par Israël de plus de 130 colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie. Par ailleurs, après avoir déclaré ce week-end la rupture de la coordination sécuritaire avec Israël, le président palestinien Mahmoud Abbas a atténué ce lundi sa position, affirmant qu'il s'agissait là d'une option et non d'une mesure déjà mise en œuvre par les Palestiniens. Si les Américains continuent avec ce projet, le boycott est une option, a-t-il déclaré dans une réunion de son cabinet à Ramallah. Le gouvernement britannique promet de sévir davantage contre les personnes condamnées pour terrorisme au lendemain d'une attaque au couteau à Londres, la deuxième du genre en 2 mois. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani. Nanit, bonsoir.
Bonsoir Dou, bonsoir à tous. La Mauritanie recevra 2 milliards de dollars des Émirats Arabes Unis pour financer des projets de développement ainsi qu'un prêt à taux réduit. La Mauritanie a enregistré l'an dernier un taux de croissance de 3,6% et prévoit près de 6% annuellement sur la période 2019-2021. Selon la Banque mondiale, le PIB du pays s'est élevé à environ 5,2 milliards de dollars en 2018. L'Agence nationale marocaine de réglementation des télécoms a infligé une amende de 310 milliards d'euros à l'opérateur Maroc Télécom, accusé de pratiques anticoncurrentielles dans la mise en œuvre du dégroupage que la société gère. Maroc Télécom aurait empêché et retardé l'accès des concurrents au dégroupage, les empêchant ainsi de déployer une offre de téléphonie fixe. La sanction représente environ 10% du chiffre d'affaires du groupe en 2018. Maroc Télécom se réserve la possibilité d'exercer les voies de recours prévues par la loi. Pour terminer, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et son allié russe vont tenir une réunion technique mardi et mercredi à Vienne pour analyser la baisse des cours du brut en lien avec l'épidémie du nouveau coronavirus. Les cours du pétrole accusent une forte baisse depuis le début de l'année, fragilisée par les inquiétudes pour l'économie chinoise qui tourne au ralenti en raison de l'épidémie. Le baril de Brent est repassé sous la barre symbolique des 60 dollars. Sur un mois, il a perdu 11,9%, enregistrant ainsi sa plus importante baisse depuis novembre 2018.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Kansas City décroche le Super Bowl.
Oui, Kansas City et son quarterback Patrick Mahomes ont réussi un comeback formidable pour remporter le 54e championnat de football américain devant San Francisco, 31-20. Kansas City a ainsi remporté le deuxième titre de son histoire à Miami lors d'une finale à suspense. L'équipe du Missouri met un terme à 50 ans de disette depuis son premier sacre face à Minnesota et succède ainsi au palmarès à New England. Le triomphe des Chiefs a un visage juvénile, celui de Patrick Mahomes. À 24 ans, il est le deuxième plus jeune quarterback de l'histoire à soulever le trophée Vince Lombardi après Ben Roethlisberger.
Nouveau record d'Afrique pour Hugues Fabrice Zongo.
Oui, pour son premier meeting en 2020, le Burkinabé a établi un nouveau record du triple saut d'Afrique à Paris, 17,77 m. En 2019 déjà, Hugues Fabrice Zongo avait établi un nouveau record du continent à 17,58 m sur le même meeting de Bercy. Avec ce bond, il devient le quatrième performeur mondial de l'histoire en salle. Entraîné par le français Teddy Tamgo, Zongo n'est plus qu'à 15 cm de son coach et voudrait définitivement faire tomber cette performance aux prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Alors l'objectif, c'est clairement de sauter aussi loin. Enfin, j'ai pas d'objectif de performance à Tokyo. Pour moi, en fait, c'est sauter ce qu'il faut en fait pour gagner la médaille d'or. Du coup, on se prépare à tous les cas de figure, pour que si finalement il y a quelqu'un qui va venir faire le record du monde, qu'on puisse quand même le battre en fait ce nouveau record du monde là. Donc, on s'entraîne physiquement forcément, mais également mentalement pour justement gérer ce genre de cas-là.
Hugues Fabrice Zongo, recordman du triple saut en Afrique en salle.
Le tableau des demi-finales de la CAN Futsal est complet.
Oui, les derniers matchs de groupe disputés ce week-end ont livré les qualifiés pour le dernier carré. Dans le groupe A, l'unique victoire de la Libye sur la Guinée équatoriale 2-1 est suffisante. Hier, l'Égypte a réalisé le 3-3 en venant à bout du Mozambique 3-1. La Guinée, de son côté, termine avec une défaite 1-5 devant l'Angola. Les Palancas Negras prennent la deuxième place du groupe B. Ainsi, en demi-finale, le Maroc, champion en titre, affrontera l'Angola, tandis que l'Égypte sera face à la Libye. Les finalistes seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde Futsal 2020 en Lituanie.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le parti majoritaire tiendra sa réunion en février pour fixer la date de la désignation du candidat pour la prochaine présidentielle. Le président Alassane Ouattara l'a déclaré hier lors de la cérémonie de présentation de vœux du RHDP, le parti au pouvoir. Il a promis la victoire dès le premier tour du scrutin d'octobre au candidat de son parti sans pourtant le nommer. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Abidjan le secrétaire général adjoint à la communication du FPI, un parti d'opposition. Il s'agit de Frank Anderson Kwasi.
Dire que, à l'issue de ces élections qui arrivent là, un parti peut gagner au premier tour, mais c'est un rêve. Mais comme le rêve est permis, on peut toujours rêver. Mais en tout état de cause, nous nous battons pour que les conditions soient réunies.
Alassane Ouattara a salué une commission électorale consensuelle.
Il n'y a que M. Ouattara seul qui la trouve consensuelle. Je ne sais pas si on est d'accord sur le sens du mot consensuel. Mais pour ce que je sais, consensus, ça veut dire que toutes les parties prenantes sont d'accord pour que nous empruntions tel ou tel schéma de la commission électorale. Ce qui n'a pas été le cas. Une discussion a été ouverte et très vite, la discussion a été balisée par le pouvoir. Je veux parler des deux plateformes significatives, EDS et la CDRP. C'est EDS qui regroupe un certain nombre de partis, dont le FPI, et la CDRP qui est une plateforme pilotée par le PDCI-RDA. Ces deux plateformes ont été exclues de cette discussion et M. Ouattara a dessiné une CEI qui est totalement à la solde du pouvoir. C'est ce que l'opposition décrit depuis lors.
Est-ce que la Côte d'Ivoire peut espérer des élections apaisées en octobre, des élections sans Guillaume Soro, sans Laurent Gbagbo, Blé Goudé et d'autres?
Comment vous pouvez envisager une élection sans et exclure a priori un certain nombre de personnes qui de toute façon se sont déjà déclarées candidats? Je parle de Guillaume Soro. Mais dans tout état de cause, nous, l'opposition significative, nous n'appelons que des élections sans R. C'est pour cela que nous demandons que les conditions qui permettent l'organisation des élections apaisées soient réunies. C'est tout ce que nous demandons. Cela suppose qu'il y ait des discussions ouvertes, inclusives à toutes les parties prenantes à ces élections et que nous soyons d'accord sur les conditions d'organisation de ces élections. Et si ces conditions sont réunies, il n'y a pas de raison que les élections ne soient pas apaisées. Or, nous constatons aujourd'hui que le pouvoir n'a pas l'air de vouloir organiser des élections qui satisfassent toutes les parties prenantes.
Si vos exigences ne sont pas acceptées...
Nous sommes en train de nous battre et faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire se mobilise pour qu'elle ne connaisse plus ce qu'elle a connu en 2010. Les Ivoiriens ne veulent plus de traumatismes, ne veulent plus de guerres, ne veulent plus de morts à l'issue des élections. Nous voulons qu'à l'issue d'une élection, il y ait une passation pacifique de pouvoir. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a toujours prôné. Et nous qui sommes ses partisans, nous sommes dans cette ligne. Nous avons tous intérêt à faire en sorte que ces conditions soient réunies et que les élections soient les plus calmes et les plus apaisées possibles. Que l'une de ces conditions pour nous, pour qu'il y ait la paix et la réconciliation véritable, c'est le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, parce que sa place est ici et non ailleurs. Qu'il soit totalement libéré et qu'il vienne participer à la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est une des conditions sine qua non pour nous, pour les élections apaisées. Il faut que tous les acteurs soient sur le terrain ivoirien pour mener ensemble cette bataille et pour participer à la consolidation de la paix.
C'était le secrétaire général adjoint à la communication du FPI, Frank Anderson Kwasi. Kinshasa, secoué depuis quelques jours par une affaire de mœurs concernant un pasteur évangéliste, Eddie Sango a joint dans la capitale congolaise le chercheur et professeur de l'histoire des mentalités, Kambaye Boatia.
Quand vous êtes dans une idéologie chrétienne non sérieusement définie, l'immoralité n'est pas loin. On va justifier l'immoralité par le fait que Dieu veut ainsi. Vous voyez un peu. Tandis qu'en Amérique et dans les pays occidentaux en général, vous êtes là vous-même, on est dans une certaine rationalité, tout en croyant que la rationalité n'est pas toujours juste. parce que l'idéologie qu'on utilise, c'est une idéologie qui n'est pas d'ici. C'est le business. On veut avoir le tout à la fois et au même moment. Voilà, si je peux être bref. C'est le business. C'est ainsi que les églises se coupent, se multiplient. Aujourd'hui, il est tel isme. Demain, il est tel autre isme. Hier, il était tel autre isme. C'est le business. Même dans l'église catholique, on est business. Dans les églises protestantes les plus vieilles, on est business. C'est la pauvreté qui fait que nous cherchons. Le travail pour le développement n'existe plus.
Mais là, vous n'expliquez pas ce qui peut être derrière ces comportements.
C'est une situation, c'est un phénomène. C'est le phénomène de dépouillement. C'est le phénomène de la pauvreté. L'homme est devenu vide. L'homme est devenu, n'est plus lui-même. On cherche ailleurs le salut. On cherche à trouver les illusions. On cherche les vendeurs des illusions. Ces vendeurs des illusions sont des pasteurs, sont des prêtres.
Sociologiquement, qu'est-ce que représentent aujourd'hui les évangélistes ou les pasteurs dans la société congolaise?
Pour les Congolais, les évangélistes et les pasteurs, aujourd'hui, on les prend comme, excusez-moi le terme, comme les aventuriers, comme les gens qui vendent l'illusion. Et les vendeurs d'illusions aux États-Unis. Ceci a atteint même les églises catholiques et les églises protestantes les plus sérieuses.
Quel impact ces comportements peuvent avoir sur ces églises dont certains n'ont à peine pas 10 ans d'existence, par exemple, ou viennent de commencer?
On dit qu'il faut travailler. Mais les pasteurs congolais, africains, congolais particulièrement, ne vous envoient pas au travail. On est dans l'église d'intercession de 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du soir. On vous dit non, ne travaillez pas, croyez seulement. Vous comprenez? On interprète la Bible comme on veut. L'église de prospérité vous dit, priez seulement, vous aurez l'argent.
Les pasteurs ou les évangélistes prêchent la moralité. Mais qu'est-ce qui explique les dépravations de mœurs qui s'affichent ces derniers jours?
Les pasteurs au Congo n'a pas pénétré par les études concrètes. Ils prennent la Bible et parlent de la Bible comme étant révélée. Il a été à la montagne, il a été dans le désert, il a été dans la forêt. Selon les intérêts bien précis, il dit aux fidèles, moi je suis allé, j'ai été fréquenté par le Seigneur, il enseigne ça. Et quand il enseigne ça chez les pauvres, les analphabètes, on croit immédiatement. Parce que dans le royaume des pauvres, ce sont les bornes qui vont plus clair.
Mais apparemment, ils ne sont pas aussi riches que certains les pensent. J'en ai interviewé qui disent qu'ils n'ont pas de jets, ils n'ont pas de villas.
C'est une richesse factice.
C'était Kambayi Boatia, un chercheur et professeur de l'histoire de mentalité à Kinshasa. On passe maintenant à la Corne de l'Afrique qui connaît la pire invasion de criquets pèlerins depuis 25 ans et la pire au Kenya depuis 70 ans. La Somalie a déclaré une urgence nationale. Les criquets pèlerins ont ravagé au moins 11 des 47 comtés du Kenya. Les experts disent que si l'invasion acridienne n'est pas contrôlée, elle pourrait constituer une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire dans la région. Le point avec Lionel Gaïma.
Le gouvernement somalien a déclaré une urgence nationale face à la recrudescence acridienne. Selon le ministre somalien de l'Agriculture, la première vague de criquets pèlerins a détruit environ 100 000 hectares de terres agricoles et pâturages dans le pays en décembre. Et la deuxième vague sera encore plus destructrice. Des millions de Somaliens dépendent déjà de l'aide humanitaire et les récoltes sont prévues en avril s'il en reste quelque chose. Au Kenya. Le fermier Théophilas Kimanzi s'attendait à une bonne récolte cette année. La semaine dernière, il s'est réveillé un matin pour découvrir que le criquet avait dévasté ses champs.
Ils ont fait la fête avec mon maïs, les haricots verts, ils ont même mangé les pastèques. Ils ont également mangé ce qui était destiné à nos vaches et chèvres. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de demander de l'aide à l'État.
Des pénuages de criquets affamés se sont répandus depuis l'Éthiopie, la Somalie jusqu'au Kenya. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, a estimé qu'un seul de ces essaims couvrait une superficie de 2400 km². Des avions les ont pulvérisés dans l'espoir de les empêcher de se propager au Soudan du Sud et à l'Ouganda voisin. Stephen Joka, directeur de la FAO pour l'Afrique de l'Est.
En Éthiopie, nous avons déployé deux avions qui opèrent, mais les criquets sont toujours là. Au Kenya, ils sont arrivés le 28 décembre et immédiatement, de concert avec le ministère de l'Agriculture, nous avons déployé deux avions.
Pour les agriculteurs comme Kimanzi, tous les moyens sont bons, comme brûler des pneus ou faire du tapage pour essayer de chasser ces insectes ravageurs. L'autorité intergouvernementale pour le développement a lancé un appel à l'aide. Gouleid Artan du Centre de prévision climatique de l'IGAD.
If this is not dealt quickly, Si cette situation n'est pas réglée rapidement et atteinte, elle aura un effet grave sur la sécurité alimentaire de la région. Selon le dernier rapport, 27 millions de personnes ont déjà besoin d'une aide alimentaire. Et si ce n'est pas réglé à temps, ce sera pire.
Selon des experts, cette invasion des criquets est due au changement climatique. John Richard, de l'Institut international de recherche sur l'élevage.
En ce moment, l'invasion des criquets pèlerins est associée à des facteurs environnementaux qui vont de températures plus chaudes au vent qui favorise le déplacement des essaims et ainsi que les pluies qui leur ont été favorables.
L'invasion des sauterelles faisait partie de 10 plaies bibliques d'Égypte. C'est peut-être pourquoi tous les agriculteurs de la région prient pour la fin du cauchemar.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ce lundi, la course à la Maison-Blanche s'accélère puisque du 3 février, aujourd'hui donc, au 16 juin, les Américains vont pouvoir choisir le candidat qui les représentera aux élections du 3 novembre. Si pour les Républicains, il s'agit d'un vote symbolique puisque Donald Trump est quasi assuré de représenter le Parti républicain. Pour les démocrates, en revanche, cette période est cruciale. Les 12 candidats démocrates devront s'affronter aux urnes dès le 11 février. Mais ce soir, le bal est ouvert dans l'Iowa avec un processus électoral atypique appelé le caucus. Pour en savoir plus, nous avons joint sur place Dilly Dico dans l'Iowa.
L'ambiance est très calme à quelques heures du caucus. Ce lundi est une journée comme les autres pour l'instant, puisque les habitants de l'Iowa vaquent à leurs occupations habituelles. Ils sont au travail ou à l'université en ce moment et le caucus a lieu à 19h pour permettre aux gens de se déplacer en personne. Ils doivent donc absolument être présents physiquement afin de pouvoir voter. Et cela met en évidence la singularité du caucus, qui est un processus utilisé par 5 autres États américains sur les 52, donc 6 États au total. Les habitants de l'Iowa sont donc les premiers aux États-Unis à faire connaître leurs préférences pour un candidat plutôt qu'un autre. Et ce qui se passe concrètement, c'est que ce soir, les habitants de l'Iowa vont se rendre soit dans des écoles locales, des églises ou des gymnases pour exprimer publiquement leur choix parmi les candidats démocrates et républicains. Mais c'est vraiment, l'accent est mis sur les démocrates.
Et justement, qu'est-ce qui fait la particularité de ce caucus? Ce n'est pas un vote comme les autres, n'est-ce pas?
Donc, c'est un vote très différent. Lorsque les électeurs démocrates vont arriver à l'endroit où le caucus se déroule, donc comme je l'ai dit, une école ou une église, ils vont faire connaître leur préférence pour un candidat en se ralliant à un des nombreux groupes qui va se former dans la salle. Et donc lors de ce premier ralliement, on va faire un décompte pour voir quels sont les groupes qui sont viables. Et donc après le décompte, on essaye de voir quels sont les groupes qui ont obtenu moins de 15% de soutien. Et ces groupes-là ne sont plus considérés comme viables. Donc lors du second ralliement, donc les électeurs émettent une seconde préférence, ils vont pouvoir être courtisés par les partisans d'autres groupes dans la salle.
D'accord. Et pourquoi le caucus de l'Iowa est si important au niveau national dans la course à la Maison-Blanche?
Tout simplement parce qu'il s'agit en quelque sorte du premier vrai test. Les citoyens américains s'expriment pour la première fois dans un contexte réel et non pas dans le contexte d'un sondage. Et donc même si l'Iowa n'envoie que 41 délégués à la Convention démocrate, c'est surtout le symbolisme et l'importance du caucus de l'Iowa qui explique la portée de ce caucus à l'échelle nationale. Par conséquent, ce qui se passe, c'est que les résultats du caucus de l'Iowa peuvent faire ou défaire une campagne présidentielle. Le caucus de l'Iowa a la capacité d'influencer les électeurs d'autres États, les États qui vont voter après l'Iowa. Et donc, les candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats vont continuer la course à la Maison-Blanche. Et ceux qui finissent au bas de la liste sont en général contraints de quitter la course parce qu'ils voient tout simplement leur financement tarir.
C'est Dilly Dico depuis l'État de l'Iowa, où la course à la présidentielle est pratiquement lancée ce soir. Donc, et ce qui met fin à cette édition, mise en onde par Michel Joseph, présentée par Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Afrique.